France Inter, le 7-9.
Bonjour Claude Skolovitch.
Bonjour.
La revue de presse, et on parle d'une mémoire.
La mémoire dans Nice Matin de Nadine de Villers, dont la vie fut volée il y aura un an après-demain, quand son chemin croisa celui d'un terroriste alors qu'elle priait dans la cathédrale Notre-Dame de Nice. Elle avait, petite fille, traversé des saletés, la misère, la violence, un père alcoolique, un viol, mais elle avait été plus forte que cela et adulte, son sourire rayonnait, sentait-elle pourtant que rien n'est jamais acquis. À son mari Geoffrey, elle disait parfois « S'il m'arrive quelque chose, ne m'oublie pas, mais vis ta vie ». Geoffrey a écrit un livre, la biographie de son épouse. Il dit que c'est une manière de la prolonger. Ils n'ont pas eu d'enfant. Le livre s'appelle « Ne fais pas ta Cosette », ce que disait son père à Nadine quand elle était petite. Victor Hugo doit sourire tendrement. Et cet article de Nice Matin est comme la réplique des témoignages des survivants et des endeuillés du 13 novembre 2015 à Paris. Dans Le Monde et sur le site de France Info, allez lire l'histoire de Guillaume Valette, qui était sorti indemne physiquement du Bataclan, mais couvert de sang, glacé, exténué, pour s'être réfugié dans ce qu'il appelait une boue humaine. Il avait été frappé par des balles invisibles, atteint psychologiquement, et le 19 novembre 2017, Guillaume s'est pendu. Son père est venu nous dire son histoire, puisqu'il n'est pas là pour le faire. Dans Télérama, une fille dit son père, dont la vie fut volée elle aussi il y a 63 ans. Le père de la cinéaste Catherine Corsini est mort en 1958 d'un accident pendant son service militaire. Il avait 26 ans, elle en avait deux. C'était un jeune homme corse monté à Paris qui rêvait de théâtre, de Gérard Philippe. Catherine avait 7 ans quand elle a ouvert une malle qui contenait les trésors de son père. Des disques de Brel et de Ferré, des pièces de Jean Anouilh. Et surtout, un disque gravé où il avait enregistré un de ses poèmes. Il avait une voix juvénile, un accent corse chantant. Et c'est muni de ce souvenir que nous lisons les mots de sa fille, Catherine Corsini, qui est donc dans Télérama, mais aussi dans La Voix du Nord, et rédactrice en chef invitée de l'Humanité. Elle parle d'elle-même et des autres. Elle se souvient d'une nuit passée dans un hôpital en décembre 2018 avec une jambe cassée, quand les gilets jaunes tenaient le pavé, et de l'idée d'un film qui lui en est venu. Le film sort aujourd'hui, il se nomme Fracture. Il dit la rencontre de deux éclopés dans des urgences survoltées, une intellectuelle que sa compagne quitte et un gilet jaune qui a rencontré un projectile policier. Catherine Corsini dit des gilets jaunes qu'ils étaient des artistes à leur manière, donnant de la vie aux ronds-points sans âme. Elle veut leur donner un visage. Elle veut aussi témoigner, porter la parole des personnels des hôpitaux. Le cinéma est parfois la première étape de la justice.
On parle aussi d'une aide-soignante, Claude.
Dans L'Humanité, justement, elle se prénomme Aïssatou et elle joue dans le film de Catherine Corsini une infirmière. Dans la vraie vie, Aïssatou est aide-soignante à l'hôpital Saint-Joseph à Paris, où il lui est déjà arrivé de voir passer 180 personnes devant elle en une seule journée. Il n'est pas indifférent de la lire aujourd'hui, même si elle vient du privé, quand, nous vous en avons déjà parlé ce matin, Libération, dans un remarquable dossier, relève le stade critique, terme médical, de nos hôpitaux publics, dont 20% des lits. Un lit sur cinq, 77 000 lits donc, sont fermés cet automne, faute de personnel. Un chiffre venu d'une enquête du professeur Delfrécy, président du conseil scientifique. Un chiffre que ne conteste pas le ministre de la Santé, Olivier Véran, dans une interview qu'il donne à Libération, sans l'arrogance usuelle des politique. Le ministre dit qu'il ne possède pas de médecin caché dans un placard, ni d'infirmière qu'il pourrait déployer en appuyant sur un bouton. Il dit « la situation est compliquée ». Il dit « nous payons des décisions qui n'ont pas été prises il y a 20 ans ». Il dit que 17 000 étudiants sont en deuxième année de médecine et qu'on a créé 6 000 places dans les écoles d'aide-soignants et d'infirmières. La relève est là, mais ça va prendre du temps. Et dans l'immédiat, donc, allez lire dans Libération comment l'hôpital souffre de sous-effectifs, de lassitude, d'épuisement, d'accumulation, de revenus insuffisants. Des médecins s'exilent dans le privé. Et Martin Hirsch, patron de l'assistance publique de Paris, ajoute cela. Des jeunes gens ne veulent plus travailler la nuit ou le week-end. Hirsch parle d'un moment périlleux. François Crémieux, patron des hôpitaux de Marseille, évoque une situation parfois ingérable. Le chef des urgences du CHU de Lille, Patrick Goldstein, se demande comment on va passer l'hiver. Dans Libération, vous aurez des litanies de chiffres, mais qui chacun porte des conséquences humaines. C'est une urgence cardiaque dont le patient a dû attendre 2 heures pour trouver une place dans un service. C'est une dame de 92 ans qu'on a laissée plus de 16 heures sur un brancard sans même avoir le temps de passer la voir. On s'est rendu compte trop tard que personne n'avait pu l'amener aux toilettes. Il est des histoires que les cinéastes du réel pourraient conter. Dans la dépêche, je lis que les urgences pédiatriques du CHU de Toulouse sont au bord de la saturation, la faute aux gastro et aux maladies respiratoires. Dans Ouest-France, je lis que par la bronchiolite, les urgences pédiatriques saturent au Mans. Je lis dans la montagne que des patients affluent en oncologie à Brive, porteurs de pathologies graves, car on a moins dépisté ou plus tard les cancers dans la crise du Covid. Je lis dans le populaire du centre que les infections sexuellement transmissibles sont en recrudescence en Haute-Vienne. Je lis dans Sud-Ouest que les confinements ont fait grimper les addictions, désormais un enjeu de santé publique. Un congrès s'en est emparé à Biarritz et on nous parle d'une molécule bordelaise qui traiterait les effets toxiques du cannabis. On la teste sur l'homme aux États-Unis, mais pourquoi pas chez nous, se demande Sud-Ouest. Oui, pourquoi pas. Allez, j'en termine. Dans l'opinion, c'est contre-cyclique presque. Vous lirez de jolies phrases de patrons amoureux, je veux dire amoureux de leur fonction d'entrepreneur. Un dictionnaire amoureux de l'entreprise et des entrepreneurs sort demain, dont l'opinion livre les bonnes feuilles. Le président de Saint-Gobain aime le mot « oser ». Celui du réseau Outre-mer Network adore l'expression « ascenseur social ». Et Vincent Bolloré, dont on parle souvent, aime ce mot « transmettre ». Transmettre, c'est joli, non ?
C'est pas mal, c'est beau. Merci, Claude Askolovitch, pour cette revue de presse.